Guillaume Beaulieu et le fond de l'histoire.
Lentement, les îles de la Madeleine s'éloignent. Îles tristes, îles perdues, îles semées comme une poignée de grêlons au carrefour des vents du Labrador et des vents de l'Atlantique. Les Madelinots voient fuir leur île. Un arbre disparaît, très pauvre et très seul, qui n'eut d'autre utilité que de servir de repère là-bas, entre deux bonds de la falaise. Les ourlets du sol, un à un, ravalent les basses maisons couleur de novembre. C'est là que nous habitions. Une femme a parlé à voix basse pour ne pas livrer son émotion. Les femmes ont l'âme moins voyageuse que les hommes. Elles partent petit à petit, jamais tout d'un coup. Ce sont elles qui éternisent les adieux, elles qui s'accrochent au passé de toute la force de leur âme. Craignent-elles le changement comme un mauvais coup du sort? Il reste que les îles ne sont plus que des ailes repliées à fleur d'eau. En arrière, les îles. En avant, l'Abitibi. Là-bas, il y a du beau bois puis de la belle terre. Pourquoi donc se lamenter à se ronger le cœur sur la main? De dire le père Azad Boirier, de la bonne terre. Les Madelinots se raccrochent à cette promesse. Alors chacun, la brise aidant, le soleil aidant, commence à bâtir une image de cet Abitibi dont le nom est venu les troubler jusqu'au fond de leurs îles. L'espoir monte peu à peu. Abitibi. 14 familles, 102 personnes vivent à cette heure suspendues à un mot. Dans 4 jours, au terme d'un voyage d'environ 1300 milles, les Madelinots arriveront au bord glaiseux du lac Abitibi, à une très faible distance de la frontière d'Ontario, et ils verront l'île promise sortir de la nuit. La réalité répondra à leur vision ou les décevra, mais jamais l'Abitibi ne sera aussi beau qu'à ce moment où, tassé à l'arrière-pont du Lovat, ils l'imaginent et la voient dans les bleus, les verts et les écumes que l'hélice broie. Le lendemain, c'est un arrêt dans la capitale québécoise. Le surlendemain, c'est un ciel de ouate grise, la fin d'un dimanche pluvieux qui rappelle la grisaille des îles. Les Madelinots, très las, très fourbus, retrouvent leur wagon à l'arrière du convoi en route pour l'Abitibi. Bien pauvrement, ils s'occupent aussitôt à préparer leur popote sur le gros poêle de charbon. Du pain, du lait, des craquelins et du thé bouillant qui racle la gorge. Madame Poirier me raccroche par la manche. « Oh! » fait-elle, tournant vers moi ses yeux brouillés. Oh, ça pique le cœur. Un peu avant Amos, le soleil éclate soudainement vers les verts tendres, les pailles, les safrans, les rouilles, l'or et les moissons. C'est une joie sans limite dans le wagon. Dieu, est-il possible que tant de bonnes choses puissent pousser de la bonne terre, de la bonne terre? Oui, ils osent y croire. Et puis, il y a la sarre. Une cheminée de scierie se dessine, des maisons claires et osées entrent dans le champ de vision, quelques-unes en pierre, la plupart en bois et peintes des couleurs les plus vives. En débarquant, la petite procession s'en va vers le bureau des terres par les rues où personne n'a la curiosité de les regarder passer. Les Madelinots accomplissent tous les gestes qu'on leur demande. Ils signent d'abord leur lettre de créance au bureau des terres. Puis, en possession de leur premier chèque d'allocation, ils se laissent conduire au magasin pour y faire des emplettes nécessaires à leur installation. Et savez-vous ce que d'abord a acheté le père Azad après le lait en conserve et le pain? Une hache. Oui, une hache pour commencer demain à déboiser son lot. Et savez-vous ce qu'acheta un autre pêcheur des îles? Une scie. Puisque le père Azad avait la hache, il convenait bien maintenant d'avoir une scie pour équilibrer l'outillage à échanger. Ils ont le vrai sens social. De la serre, la petite troupe s'est embarquée en automobile pour franchir les 20 derniers milles qui les séparent du lac Abitibi. Tantôt, je les verrai tellement las qu'ils n'auront plus qu'un seul désir, se coucher collé pour combattre novembre et dormir. Les autos roulent maintenant dans une campagne rase. Des grands pans d'ombre montent des fossés, s'accrochent au taillis. Quelque chose de triste se lit dans leur fatigue. L'heure est complice de leur fatigue, je pense. C'est l'heure où personne, jamais personne dans le monde ne songe à partir en voyage. Il faudrait toujours arriver dans un pays à l'aube. La nuit tombe lorsque nous nous relevons momentanément et descendons dans la boue et la glaise du lac Abitibi. Dans les pensées de tous, au loin, portées sur des vagues courtes et des couleurs de labour fumant, l'île Népawa. Une femme, à bout de nerfs, se plaint pourtant. On nous avait dit que l'île était bien plus près de la terre ferme. Ah oui, mais bien sûr, pour rejoindre la bonne route, il faut faire un long détour. Ah, voilà quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Le canot, lui, traîne pourtant largement sa charge d'humanité. Partout, des membres confondus. Un bras replié dans le sommeil, une jambe allongée, un petit pied sortant de la couverture. Enfin, on entendit le clapotis des vagues contre les cailloux de la côte. Enfin, on vit une lumière. Agile, soudainement reposé, les Madelinos accostent. Gravissent la pente glaiseuse, s'aidant des mains, s'aidant des ongles, avec je ne sais trop quelle hâte fébrile d'arriver. Un enfant, avec des yeux mal réveillés, regarde drôlement autour de lui et demande « On est-il chez nous? » Et cette fois, sans arrière-pensée, de tout son cœur réconforté, la maman répond « Oui, oui, à bout de chez nous. » Ce voyage épique et bien réel de 1941 nous rappelle ce que ce fut, dans les années 30 surtout, de quitter un endroit qu'on a aimé pour se refaire un chez-soi rempli de promesses qui serait donné un peu plus que la misère passée. L'Abitibi-Témiscamingue, véritable soupape de secours du Québec. Cette capsule historique fut écrite en grande partie grâce au texte « La terre secourable » par Gabriel Roy pour le Bulletin des agriculteurs en novembre 1941.